et vous écoutez France Culture. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup est là. Si le loup partait, qui nous mangerait ? Des oies, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui, après avoir souvent parlé de la série noire et parfois de la collection blanche, s'aventurera ce soir dans l'univers gris anthracite initié chez Gallimard par notre invité Deoa, et ce à l'occasion de son dernier roman, L'Ikaya, placé sous l'invocation du divin marquis et consacré via une immersion dans le monde du BDSM, bondage et discipline, domination et soumission, à une aventure passionnelle, singulière et frénétique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui reçoit ce soir Deoa, bonsoir.
Bonsoir.
Dernier passage à Mauvais genre de Deoa, ben c'était pour Pouctou 1.
C'était pour Pouctou 1.
Vous ne fûtes point des nôtres pour Pouctou 2,
non.
Mais vous revenez pour L'Ikaya et on va voir que l'aventure est tout aussi forcenée et considérable et terriblement exaltante. Mauvais genre ce soir, je le dédierai à la personne de Pascal Casanova qui vient de nous quitter, qui a été pendant des années une des figures les plus intenses et une des productrices les plus rayonnantes de France Culture. Nous ne l'oublierons pas, l'émission de ce soir. Je la ferai également avec Élise Lépine.
Bonsoir.
Comment va-t-elle ?
Très bien.
Elle vient d'éditer un livre sur les éditions Ghibli.
Alors sur le studio Ghibli, oui.
Studio Ghibli, Mathis. Oui, les éditions Ghibli, ça existe peut-être. Mais le studio Ghibli, en tout cas, on est sûr. Qui est pareil aux éditions ?
Playlist Society.
Voilà, eh bien écoutez, on y prêtera attention, d'autant qu'une émission Japon est en route. Il y a là Jean-Pierre Dionnet.
Bonsoir.
Comment va-t-il ?
Eh bien, il va bien. Il est maintenant campagnard, donc quand il revient à Paris, c'est une aventure.
Ah bon, vous avez peur de la pollution, des feux rouges?
Tous
des...
les gens, les voitures, les autos même. Voilà, les voitures et même les autos.
Alors faites attention ce samedi soir, parce que comme personne ne l'ignore, c'est la nuit blanche. À Paris, personne ne dort, tout le monde se déambule, se promène et profite des événements qui sont donnés. France Culture est partenaire de la nuit blanche. Et si on peut vous donner des recommandations, je me tourne vers Céline Duchesnet, c'est d'aller du côté du lac Doménil. Car au bord du lac Doménil, Aurélie Ferruel et Florentine Guédon ont installé des sorcières, des idoles de paille et qui méritent à mon avis largement que vous y alliez, ma chère Céline.
Je vais y faire un tour et déployer mes ailes noires.
Alors après le lac Doménil, vous allez du côté du Rocher des Saints, ce qu'a éclairé Philippe Ken. Vous verrez, c'est assez magnifique. Et puis on peut retrouver Abdelkader Benchama, qu'on avait déjà croisé avec Agnès B lors de l'émission et l'exposition sur le réalisme fantastique, et là qui, au Bernardin, propose des visions cosmologiques. Donc la nuit blanche, de quoi s'émerveiller, parce que cette année, la thématique générale, ce sont les constellations. Paris est constellé de constellations artistiques et on aurait tort de s'en priver. En attendant, bah nous on va se consteller de joie avec l'encyclopédie pratique des mauvais gens. De qui s'agit-il ce soir, Céline ?
Il s'agit de Jérôme Clément Wils, qui m'a reçu chez lui au Vander Lieber, collectif d'artistes basé dans les locaux d'une ancienne entreprise à Bagnolet. Alors il était avec son kilt long, ses tongs claquantes, son Marcel blanc, car Jérôme Clément Wils était encore tout porté par l'énergie de son été, car, m'avait-il expliqué, il était devenu fée, une fée néo-païenne et queer, s'entend, ce qui n'est pas complètement étonnant pour un homme polymorphe qui chante et performe sous le nom de Printemps von Sliv, qui réalise des films dont le magnifique Être cheval sur Karen Chessman, l'homme-femme cheval que nous avions longuement évoqué dans Mauvais genre. Mais ce n'est pas pour discuter créatures hybrides et fées queer que nous nous rencontrons. Ce qui me mène à lui, c'est son tout dernier documentaire, Quand tout le monde dort.
Ce qui est ouf avec la teuf, en fait, c'est que c'est vraiment... Là, en y pensant vite fait, c'est le dernier lieu d'expression pour nous, en fait. Vraiment libre. On a besoin d'aventure, en fait. Du coup, on explore. Et les lieux les plus intéressants à explorer sont ceux qui sont interdits. On avait commencé dans les bois. On avait une cabane. On y faisait des fêtes. Ils nous ont chassés.
Est un documentaire qui raconte le parcours d'un groupe d'amis, le collectif Passage. Ils ont 20 ans et quelques poussières, ils aiment la musique, la liberté, les fêtes illégales et les entrailles de Paris. Jérôme Clément-Vils.
Ce collectif, je l'ai suivi déjà parce qu'il y a eu une histoire d'amour. Il y a eu un espèce de coup de foudre quand je les ai rencontrés la première fois, où je me suis dit, mais ils sont beaux. Ils sont jeunes, ils sont libres, ils sont... D'une amitié, d'une générosité complètement dingue. Ils s'appellent par des surnoms complètement dingues. Salut ma petite crevette d'amour, salut mon tube de dentifrice. Ils ont un espèce de langage ultra fleuri. Ils ont leur monde à eux, en fait. Ils se sont créés comme une espèce de tribu, mais pas au sens frelaté du terme. Ils se sont créés leur fantaisie. Et j'ai découvert, en les rencontrant, le cœur de la raison pour laquelle j'avais voulu faire ce film. C'est que ce film, il parle de liberté, il parle d'amitié. Il parle de qu'est-ce que c'est que avoir 20 ans et de vouloir les brûler par les deux bouts.
Cette fantaisie qui vous a touché chez eux, elle pourrait, comment est-ce qu'on pourrait la décrire ?
Pour moi, la première fantaisie, elle vient de cet attrait pour ces lieux bizarres, ces lieux étranges, ces lieux reculés, ces lieux mystérieux. Et ça, c'est cette première chose-là. Et c'est surtout de voir sa vie comme un jeu d'enfant, de voir la ville comme un terrain de jeu. De voir la ville comme un grand toboggan sur lequel on pourrait juste surfer, en fait. Elle vient de là, en fait. C'est de dire, tiens, cette bouche d'égout, tiens, cette trappe, c'est peut-être le début d'un tunnel qui va m'emmener au Pays des Merveilles, quoi. C'est ça, pour moi, la base de leur fantaisie, elle est là. C'est de dire que chaque jour a sa merveille. Il s'agit souvent de lieux souterrains, abandonnés, voire en passe de destruction. C'est des lieux qui peuvent avoir une histoire, donc évidemment, donc il y a une grande histoire avec les catacombes, avec la carrière, d'autres lieux qui peuvent être plus récents, techniques, mais c'est toujours des lieux qui sonnent, qui ont l'air d'être en attente, c'est impressionnant quand on a l'impression de les découvrir, de voir à quel point ils sont vides, recouverts de poussière, ils sont comme s'ils attendaient qu'une voix fasse ressentir son écho.
Comment est-ce qu'on pourrait caractériser cette génération-là, celle que vous avez rencontrée, qui a donc une vingtaine d'années ?
Moi, je la trouve extrêmement joyeuse. Dans des gestes qui peuvent être vus comme extrêmement énervés, des gestes illégaux, des gestes potentiellement dangereux, ils ont une espèce de fraîcheur. C'est comme un espèce de souffle frais qui se répand, dans des coins extrêmement sombres de Paris. J'ai pas de recul historique pour le comparer, mais ce qui est sûr, c'est la sent extrêmement vibrante. Adrénaline, bonsoir. Tout aimer, rien savoir. Des sirènes, route noire. Paris s'éveille. Des gamins de passage, pas grand-chose, des visages. Flottant. Liberté sous la terre, des gamins, des poussières, ensemble. La planète n'est plus seule, Paris ouvre la gueule et avale un bonbon, coup vanille. Passer sous les pas des passants, danser, noir et rouge, rouge et blanc. Danser, souffrir. Camper, fuir.
Quand tout le monde dort est le titre du dernier film documentaire de Jérôme Clément-Vils, vous y découvrirez le collectif Passage, bien nommé car pas toujours sage en effet, mais prêt à découvrir les failles dans la terre qui permettent avec les moyens du bord de s'évader et de vivre intensément la musique et la fête. Et pour regarder Quand tout le monde dort, direction la page internet de Mauvais Genre, il n'y aura plus qu'à cliquer sur le lien.
Merci Céline pour cette entrée Jean-Clément Vils de ce...
Jérôme Clément
Vils de ce dictionnaire encyclopédique des mauvais genres. D.O.A., vous êtes un familier des catacombes, des lieux souterrains, des friches, des angles morts de la vie urbaine, comme on dit.
Ah non, je ne suis pas un spécialiste. J'en ai visité quelques-uns pour préparer, évidemment, le livre que j'ai écrit, puisque ce sont souvent des lieux qui sont reconditionnés pour d'autres choses, puisqu'ils portent en eux une énergie qui est propice au type de fantasmagorie que les gens qui pratiquent le BDSM peuvent vouloir. Mais à titre personnel, ça ne constitue pas vraiment... J'ai pas de fantasme d'aller dans les catacombes, en fait. Je pense que je suis un peu claustrophobe. Ça doit être ça.
Bien, ben voilà, on va néanmoins mettre à rude épreuve votre claustrophobie, puisque nous allons nous diriger maintenant vers l'univers de L'Icaïa, le dernier roman de D.O.A., notre invité de ce soir, sur Mauvais Genre à France Culture, L'Icaïa et ses bunkers. Roberto Crippa, choix de Laurent Polleret pour notre playlist BDSM de ce soir dans Mauvais Genre. Alors notre invité, D.O.A. pour L'Icaïa. Alors on va savoir ce qui se cache derrière le nom de L'Icaïa, mais avant on va quand même faire un petit point. La précédente fois que vous êtes venu, c'était pour Pouctou, qui est un énorme thriller de plus de 1500 pages en deux volumes, notamment sur l'Afghanistan, sur les mercenaires en Afghanistan. Donc on était dans un univers de thriller mondial, on peut le dire. Et puis avant, vous aviez travaillé bien évidemment dans le roman noir et le polar. Et brusquement là, L'Icaïa incarne une sorte, alors je ne veux pas dire de sortie de route, ni d'abandon, mais au contraire d'approfondissement par d'autres moyens. À quoi correspond cette nouvelle, je dirais, ouverture comme ça?
Alors, si vous me permettez, je vais juste faire 20 secondes de pub, mais c'est pas tellement pour la pub. C'est qu'on va sortir aux éditions Folio un recueil où, en fait, les deux Pouctous sont réunis en un seul volume, qui va s'appeler Le Cycle Clandestin 2. Et au-delà du fait que j'aimerais bien en vendre, c'est surtout, je suis très content en fait que ce livre existe pour la première fois sous la forme qui aurait dû être la sienne au départ, c'est-à-dire en un seul morceau. Parce que le fait de l'avoir vendu en deux volumes a créé une dynamique particulière entre les deux tomes, et en fait c'est un livre en un seul morceau. Bon, passons, c'est terminé, je suis très content de ça. Par ailleurs, alors, en fait... Moi, je suis arrivé à un moment de mon parcours littéraire où j'ai validé un certain nombre de choses et j'ai un public qui m'a suivi, notamment dans le cycle clandestin, sur 4 livres dans un certain univers, dans un certain type de récit. Et je dois avouer qu'après 12 ans à travailler sur ce type de récit, j'ai eu envie de passer à autre chose parce que j'en avais marre des barbus et des barbouzes. Et donc, il était important pour moi d'opérer un espèce de virage sur l'aile pour, sans forcément m'éloigner d'une littérature avec des consonances très noires, au moins essayer d'aborder d'autres thématiques sous d'autres formes avec des récits, avec au moins un récit plus condensé. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec L'Icaïa, où en fait, je me suis d'abord fixé des contraintes de travail qui étaient limiter le nombre de points de vue, travailler avec le jeu qui m'intéresse pour un livre qui va arriver derrière, faire un récit plus court. Et ensuite, au fil de mes divagations, j'ai trouvé ce sujet qui est plus dans l'intime, la chair, l'organique, etc., etc. Donc qui m'éloignait de causes externes pour aller vers des causes internes aux troubles des uns et des autres. Et du coup, ça m'a intéressé de changer un peu de crèmerie, comme dirait certains.
Alors la crèmerie n'est pas la même, l'écriture n'est pas la même non plus, puisque les personnages ne cessent de bouger, ne cessent de se déplacer, ceux d'avant également, mais là, ils ricochent aux quatre coins de l'Europe. Alors on est à Berlin un moment, on est à Prague un autre moment, on terminera à Venise, avec des descriptions de Venise qui me font presque penser à du Rodenbach dans Bruges la Morte, donc à un univers qui n'est pas d'écriture qui n'est pas véritablement celui auquel on était habitué avec D.O.A. Et puis alors l'histoire, résumons-la rapidement, donc c'est le personnage central dénommé Le Loup, est une ancienne gloire de la chirurgie esthétique, mariée à une avocate avec laquelle il se livre à des opérations, je dirais, à des jeux érotiques de plus en plus dangereux et transgressifs. Tout cela aboutit, sans le vouloir, à une sorte d'incendie qui le défigure gravement et qui l'exclut, on peut le dire, puisque l'incendie concerne, les brûlures concernent toute la partie haute de son corps, qui l'exclut de son activité rémunératrice habituelle et professionnelle, et il devient le loup. C'est-à-dire, il redécouvre le geste chirurgical, mais à l'intérieur de l'univers BDSM et ce qu'on appelle les paraphilies, c'est-à-dire des opérations... tout cela à portée érotique, des amputations. Et donc ce personnage, le loup, qui ne cesse de naviguer dans le milieu nocturne et clandestin du BDSM pour y revendre ses services à prix d'or, ses services de chirurgien. Il y croisera une autre créature qui s'appelle la fille, avec laquelle il va connaître une sorte de passion frénétique qui le mènera, je le rappelle, Paris, Berlin, Prague et Venise. Donc ça, c'est un peu l'histoire de ce couple. C'est à la fois un roman, qui a un côté nerveux. On peut l'Icaïa à côté Aurélia, au DOA.
Écoutez, je ne suis pas assez spécialiste d'Aurélia pour essayer d'y voir des parallèles, mais tant mieux, c'est très bien. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de faire un huis clos amoureux, en fait. C'est pas tant une passion, il y a de la passion dedans, mais il y a plusieurs temps dans le roman. Il y a le temps où chacun est enfermé dans sa logique, et puis il y a le temps où les deux logiques se rencontrent et se croisent pour de bon, et où on rentre dans une troisième logique, qui est celle de ce huis clos, qui est malheureusement pour ces deux personnages la logique de gens qui sont arrivés au bout d'un certain rouleau et qui donc s'enfoncent. Après, ils ne s'élèvent plus, ils ne sont plus capables de se porter l'un l'autre, ils ne font que se tirer vers le bas l'un et l'autre, et donc forcément ça a sa conclusion noire, comme dans tout bon roman noir qui se respecte. Voilà.
Jean-Pierre Dionnet.
Oui, moi d'abord j'ai pris mon dictionnaire, mais je pense que François Gellier sait le faire mieux que moi, parce que l'Icaïa, ça me disait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et je crois, François, que vous avez la définition, ça serait bien, parce que vous avez spoilé pour l'instant.
On va la demander à l'auteur, ça. Alors justement, c'est un roman qui a des vertus contemporaines, puisque vous mettez en scène un milieu qui est celui d'aujourd'hui, mais qui a un arrière-plan mythique, archaïque et mythologique très fort, et l'Icaïa renvoie justement à cette dimension mythique.
Disons que c'est un roman qui est écrit pour être un conte, en fait, un conte noir pour adultes, mais c'est un conte. Donc, comme tous les contes, il a plusieurs dimensions, dont une dimension à la limite de la mythologie. Et pour ceux qui voudront s'aventurer plus profondément là-dedans, chercher dans ces symboles-là d'autres sens cachés, il y aura quelque chose à trouver. La Licaïa, c'est une cérémonie cannibale, en fait. C'était une cérémonie où, au lieu de sacrifier en général une jeune vierge, on sacrifiait un éphèbe, ou un homme. Et on le sacrifiait sur le mont Lycée, en Grèce. En l'honneur, alors il y a plusieurs versions de la Licaïa. La version la plus couramment acceptée est celle qu'on sacrifiait en l'honneur de Zeus Licaïon, donc Zeus le loup. Mais il y a aussi une autre version qui est celle vers laquelle moi je me suis plus attaché du fait du personnage de la fille qui renvoie à ça, qui est celle de du sacrifice pour Apollon Licaïon. Et donc c'est ça, c'est une cérémonie sacrificielle, et quelque part ce symbole du sacrifice de l'homme qui est ensuite consommé et mangé pour la passion des autres... renvoie à plein de choses dans le texte. Voilà.
Tout à fait, la dévorante passion de l'un pour l'autre. Élise Lépine.
Moi, je trouve ça bien que vous ayez rompu un peu avec ce que vous faisiez pour Pouctou, pour vos autres livres, avec cette très grosse masse documentaire que vous assimiliez complètement et que vous retranscriviez intégralement pour votre lectorat. Là, vous faites quelque chose de moins... vous donnez moins d'explications. J'imagine que vous avez géré la documentation, que vous êtes allé chercher toutes les informations pour écrire sur le BDSM, mais vous n'expliquez pas, par exemple, pourquoi les personnages pratiquent le BDSM. Vous faites quelque chose de plus... Je pensais à tout à l'heure, François Angelet citait Nerval, moi je pensais à Baudelaire avec une charogne. C'est-à-dire, on voit quelque chose de dérangeant, qui nous choque, qui nous embête un peu visuellement, mais on en fait une œuvre d'art en le décrivant, tout simplement. C'est de l'art pour l'art, quoi. Comment est-ce que vous avez géré cette dimension documentaire, justement ?
Alors la documentation, c'est malheureusement ou heureusement pour moi la base de tout mon travail. La chose, c'est que ça n'est qu'une base, et c'est une base c'est ce que je dis tout le temps, qui est assez simple et qui au fond ne réclame pas un talent particulier, juste de l'énergie et du temps. L'essentiel du travail de l'auteur, il est derrière. Je pense ce qui se passe au fil des livres, c'est que j'apprends mon métier et je l'exerce. En tout cas, de mieux en mieux, dans la limite de mon talent. Et du coup, c'est aussi pour ça que la langue évolue. C'est-à-dire que d'un livre à l'autre, non seulement ma langue s'adapte au récit et aux situations propres du récit, mais elle progresse aussi. Et ma façon d'intégrer ou de ne pas intégrer la documentation, de voir ce qui est nécessaire aujourd'hui par rapport à ce que je croyais qui était nécessaire hier et ce que je croirais qui sera nécessaire demain, évolue. Donc, je dirais, peut-être moins submergé par ce que je vois avant et plus en mesure de l'intégrer dans un projet littéraire et artistique parce que, et ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais dire, c'était déjà le cas avant. Moi, j'écris des livres et je les considère comme des projets artistiques. Pas parce que je me prends au sérieux, mais parce que, pour moi, la littérature a d'abord comme vocation à être une manifestation artistique. Ça n'a pas vocation à être une manifestation de messages, mais c'est mon avis, hein, je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde. Ça n'a pas vocation à donner des messages, ça n'a pas vocation à donner des leçons, ça n'a pas vocation à expliquer le monde. Et là, ça me permet de déboucher sur le pourquoi. Je suis parti dans ce livre il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, en me posant la question, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi, à cet endroit-là, dans cette intimité-là, on se soumet à ces choses-là? Et au fond, j'y ai pas trouvé, en dépit du fait que j'ai parlé à beaucoup de gens qui se sont très gentiment ouverts à moi, j'ai fait des interviews avec pas mal de monde, mais au fond, dans la réalité, c'est un échantillon qui est tout petit par rapport au nombre de pratiquants. Dans la psychanalyse, je suis allé chercher des choses sur ce qui avait pu être écrit sur ces sujets-là. J'ai pas trouvé de réponse satisfaisante à ce pourquoi. Et au fond, au fur et à mesure que j'ai progressé dans mon travail de réflexion, parce que là on était plus dans la réflexion, je me suis dit c'était pas vraiment nécessaire de trouver une réponse satisfaisante à ce pourquoi. Ça n'a pas d'intérêt. Du coup, le pourquoi est devenu pourquoi au fond ces choses-là me font réagir comme elles me font réagir. Et le livre, en fait, c'est la manifestation de la meilleure tentative de réponse que j'ai pu trouver à ma réaction, en fait.
Why do we have to?
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Il reste ce soir Dewa pour Likaya, son dernier roman paru chez Gallimard. Alors effectivement, on parlait avec Élise du travail documentaire. J'ai aussi pensé à Céline Duchesnay qui a su se rendre digne de certaines confidences, de certains secrets que tous les gens qu'elle rencontre au fil des semaines lui confient. Là, c'est pareil, Dewa, vous avez été à la rencontre de gens qui ont une double existence et qui ont su, vous avez forcé, pas forcé, mais poussé, réussi à pousser certaines portes et à recueillir certains témoignages, puisque là, on est au-delà de la documentation, on est dans une sorte de témoignage existentiel qui passe de loin ce travail.
Alors, la chose, c'est qu'évidemment, moi, j'avais ma vision initiale du BDSM, comme je ne suis pas pratiquant, je suis un pur vanille, hein. On appelle vanille tous les gens qui ne pratiquent pas, qui ont une sexualité qu'on pourrait qualifier de normale. Après, on peut s'entendre et discuter ad vitam aeternam du terme normal. Mais enfin bon, c'est pas grave. Moi, je suis plutôt un vanille, donc ma vision du BTSM, elle restait très superficielle, et je dirais, je dois même dire, un peu sans doute cliché, pleine d'a priori, dans tous les sens. Et il me semblait intéressant, avant de me plonger dans l'écriture de quoi que ce soit sur le sujet, d'aller le plus près possible des choses, des gens. Donc, je dois avouer que j'ai une pratique assez certaine de la pénétration, sans mauvais jeu de mots, des milieux un peu ésotériques et secrets, puisque je l'ai pratiqué pendant quelques années pour tout et citoyen clandestin. Au départ, j'ai eu plus de réticence, en fait, dans l'univers du BDSM que dans l'univers des services secrets, pour la bonne et simple raison. Je comprenais pas pourquoi il y avait tant de réticence. C'est que il y a un vrai jugement du reste de la société sur ces pratiques-là, encore aujourd'hui. Moi, je le vois dès à présent dans la question qui m'est systématiquement posée de savoir pourquoi j'ai écrit sur ce sujet-là, alors que jamais personne ne m'a posé de question sur le bien fondé d'écrire sur la guerre et ses massacres. Voilà, là... Pas de question sur le BDSM, le cul et là dans le cul, là tout le monde me pose la question. Enfin, bon, ça c'est pas grave, mais c'est comme ça. Donc il y avait une vraie réticence. Ces gens-là se protègent et se protègent d'une forme d'intolérance qui peut arriver. Donc au départ c'était pas évident. Et puis de fil en aiguille, j'en ai rencontré un qui m'en a présenté un autre. C'est ça. Enfin c'est assez classique comme chose. Comme par ailleurs, je me documentais beaucoup sur tout ce qui était disponible en littérature, en psychanalyse, en documentaire, etc., etc. Que je commençais à aller dans des clubs. J'ai eu quelques rencontres assez marrantes d'ailleurs. À Prague, par exemple, mon point d'entrée dans l'univers du BDSM, c'est un soir où je me suis retrouvé à Prague tout à fait par hasard, parce que c'était une ville que j'avais pas vue. J'allais en Autriche pour travailler sur Skorzeny. Je suis finalement pas allé, je me suis arrêté à Prague. Et c'était l'été et j'ai découvert cette ville gavée de touristes. Donc je me suis éloigné du centre-ville pour aller dans un bar qui était plutôt fréquenté par des locaux. Et j'étais en train de lire et il y a un type qui était assis à côté de moi au bar qui me demande ce que j'étais en train de lire, parce qu'il voyait que je lisais en français, que ça l'intéressait le français. Bon, je fais vite. Le mec, on commence à discuter, je lui dis que je viens d'écrire un livre qui s'appelle Pouctou, je parle de quoi ça. Il me dit, ah bah moi c'est marrant, je suis pilote de drone pour l'armée tchèque. Donc on commence à discuter, etc., etc. Il dit, et son prochain livre, il parle de quoi? Il parle du BDSM. Il me dit, bah si tu veux, moi je pratique, j'y vais ce soir en club avec ma femme. Et donc, tout à fait par hasard, j'ai pénétré le milieu du BDSM comme ça, à Prague en tout cas. Et ça m'a semblé nécessaire parce que, je vous dis, j'avais plein d'idées préconçues et au fond, j'ai découvert qu'il n'y avait pas plus d'anormalité dans les gens qui pratiquent ça que dans le reste du monde vanille. Qu'au fond, il y avait la même dose de cons, de gens antipathiques et de gens sympathiques, et que peut-être que la chose que j'ai découverte, c'est qu'il y avait des gens qui étaient plus prêts à explorer des endroits d'eux-mêmes ou de leur personnalité qu'habituellement le reste des gens ne vont pas explorer. Et du coup, d'un certain point de vue, ils sont plus ouverts d'esprit que beaucoup de gens qu'on peut croiser le reste du temps. Voilà.
Parce que ceux que vous mettez en scène dans l'Ikaya, Dewa, c'est vraiment la frange la plus extrême du BDSM. C'est-à-dire les opérations avec des palpations à l'intérieur du corps, l'amputation.
Il y a évidemment dans l'univers du BDSM, ça recouvre en fait des tas de réalités très différentes, avec des tas de pratiques très différentes et des niveaux ou des intensités de ces pratiques très différentes. Ce que je décris moi est très loin de la maîtresse de donjon.
Mais on est plus dans le pampan cucu traditionnel.
Voilà, on est plus là-dedans.
On est dans quelque chose qui confine à l'agonie.
On est dans cette pulsion qui est celle de qui a transformé son propre corps en objet et qui
en œuvre.
Pousse l'individu à le remodeler ou en tout cas à le maîtriser et à le dominer à l'extérieur et à l'intérieur, puisque c'est ça. Et effectivement, moi, je me suis plus intéressé à la longue, à la frange de ceux qu'on appelle les modificateurs corporels que ceux qui sont plus dans le bondage classique, etc. Ça, même si c'est là, hein, c'est qui s'opère, qui se mutile, qui font des ablations, qui se remanient le corps, en fait. C'est plus ceux-là qui m'ont intéressé, oui, effectivement.
Oui, parce que dans les profondeurs du château de Wieserad à Prague, où se déroulent les soirées dites du White Rabbit, un peu à la Lewis Carroll, des lapins blancs, mais là, le lapin blanc est confronté à des rennes très très méchantes, il y a des cendriers humains, il y a des corps scotchés avec soumis à des tuyaux, et puis à un moment, vous rencontrez un personnage qui se fait, qui requiert les services du loup pour devenir identique à une figure de Star Wars. horse, c'est-à-dire l'amputation des jambes.
Oui, c'est Darth Maul.
Voilà.
Oui, non, mais en fait, j'ai découvert dans cet univers, si vous voulez, qu'il y a vraiment deux couches. La deuxième couche a été plus difficile à pénétrer pour moi. C'est-à-dire que la question du consentement est centrale dans le BDSM. C'est une réflexion qu'il mène depuis plus longtemps. Ce qui est assez marrant, c'est de voir que cette réflexion, elle traverse aujourd'hui la société normale ou vanille pour des problématiques de rapport homme-femme, de la drague, d'harcèlement, des choses comme ça. Mais dans le monde BDSM, le consentement est primordial. Et évidemment, le consentement, pour ceux qui veulent toujours aller plus loin ou aller plus d'extrémité, au bout d'un moment, c'est une barrière. Le consentement fait qu'on limite le risque. Donc si on ne veut plus limiter le risque, il faut passer la barrière du consentement. Et donc, il y a une seconde frange dans le BDSM, que j'ai appelé moi Tormenta, mais qui existe sous un autre nom dans le vrai monde.
La Tormenta, c'est une loge secrète.
C'est un groupement ou un regroupement de gens qui sont dans l'au-delà du consentement. Et d'ailleurs, ce que je dis dans le livre sur leur slogan, c'est consentir à ne plus consentir, c'est la réalité. C'est-à-dire c'est des gens qui, au fond, et c'est ça toute la dimension particulière de cette soirée au château de Vizerad à Prague, c'est que les gens qui sont là ont accepté d'être là en sachant que ce qui va leur arriver derrière peut aller totalement à l'encontre de ce qu'ils peuvent désirer ou vouloir désirer le reste du temps. Et donc, il y a une inversion des rôles, puisque des dominants se font dominer, des gens qui ont l'habitude d'humilier sont eux-mêmes humiliés. Voilà. Et Tormenta, c'est ça, c'est l'étape suivante. Et c'est pas tant qu'ils vont plus loin dans les pratiques, c'est qu'ils vont plus loin dans l'attaque psychologique de ceux qui pratiquent. C'est là où c'est un peu plus nuancé, en fait.
Jean-Pierre Dionnet.
Oui, alors ce qui m'a un peu fasciné, c'est que les destins se croisent, comme dirait l'autre. C'est, bon, Berlin, je comprends. Prague, je comprends. Cette ville de Golem et cette ville où il s'est passé tas de choses. Venise, je comprends aussi, mais pour des raisons personnelles. Parce que tout le monde connaît la Venise magnifique de Hugo Pratt. Mmh. Mais moi, grâce à Giger, le créateur de Alien, j'ai connu une autre Venise. J'étais venu et par hasard, je tombais sur lui et il m'a emmené dans la plaine autour. Et dans la plaine autour, il y a des striptease forains avec des vieilles dames toutes nues qui ont la chair de poule. Et après, il m'a emmené dans des entrepôts de gondoles. Et dans les entrepôts de gondoles, il y avait des gens qui baisaient dans des gondoles percées. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce Venise, mais Giger me l'a montré. Il y a l'odeur épouvantable de Venise qu'on oublie toujours. Et puis il y a donc un autre Venise. Moi j'étais resté au gondolier de Pratt et en fait j'ai découvert ça. Mais ce qui m'a plu dans le livre, c'est qu'il y a des tonnes de personnages dont certains sont juste numérotés. Ça j'aime bien. Alors je vais pas dire, je ne spoilerai pas comme mon camarade Angelier, mais ils ont des numéros. Et 666, c'est pas le sabbat dans Central Park, même si ça y fait penser. C'est le nom de quelqu'un. Je dirais que je suis resté scotché aux deux personnages principaux. Et là, je suis dans le roman noir le plus traditionnel. Ils se rencontrent, on pense que pour eux, c'est perdu. À un moment, on pense qu'ils vont s'en sortir, mais on sait que, comme chez Nicolas Ray ou Joseph Herschel Lewis, au bout du tunnel, il n'y a peut-être pas de lumière. Et en fait, ce roman, qui peut apparaître comme profondément dérangeant, est un roman noir classique avec des amants sacrifiés, comme on disait à une époque. Moi, ce que j'ai bien aimé, oui, vraiment, j'ai trouvé que c'était ce couple qui part, qui dérive ensemble et qui s'auto-condamne. Alors, j'ai vu une histoire d'amour. Alors, le reste, le côté SM et tout, bon, j'ai pensé à Krusine ou Brian De Palma, mauvaise langue, disait « Il s'est trop documenté, le Friedkin ». Là, je sens bien que notre camarade s'est documenté en surface, qu'il n'est pas rentré dans les pratiques.
Dewa.
Mais alors, en fait, ça, c'est assez marrant parce que c'est quelque chose qui m'a été dit à deux ou trois reprises. Mais comment veux-tu comprendre ce que nous faisons si tu ne pratiques pas toi-même ? La seule réponse que j'ai pu apporter par ça, c'est que j'ai écrit un grand livre sur la guerre en Afghanistan et que j'ai pas eu besoin de tuer des talibans pour savoir ce que ça fait. Donc, j'ai fait la même chose. L'histoire d'amour, oui, il y a une vraie passion. Et la raison pour laquelle j'ai choisi Venise, c'est pas parce que j'ai eu la chance d'avoir Giger qui m'accompagnait autour de Venise, que j'aurais bien aimé, mais parce que c'est tellement un cliché de la ville d'amour romantique, Venise, que c'était assez marrant d'y les placer là une passion très, très empoisonnée et nihiliste, en fait. J'ai un peu essayé de casser ce code-là.
Bon, est-ce que comme je suis le film de Nicolas Roeg. C'est pareil. Venise, c'est une belle ville pour se suicider et s'abîmer dans la mort et l'amour.
Exactement.
Oui, Venise, c'est une cité fracassée car beaucoup de gens y viennent faire leur nuit de noces quand ils vont divorcer, la deuxième chance. Et ça ne marche jamais.
Alors, il y a Venise, mais il y a aussi Berlin. La fille a obéi. Parfois, elle aime. Elle n'a pas manifesté d'émotion au moment des injections, des insertions, des violations de cette géographie ésotérique et sacrée des entrailles dont la profanation rebute le commun des mortels. Elle n'a pas réagi aux plaintes de Marcus, ni aux supplications aphones de Mademoiselle Kitty Cutt. En silence, figée, elle a observé les gestes précis du loup, captivée par leur suprême langueur. On se croyait presque dans un documentaire au ralenti, et elle admirait son combat, pénible, à l'issue incertaine, contre ce corps avarié dont le propriétaire multipliait les provocations verbales. Quand le loup annonce avoir enfin touché au but, la fille ne bronche toujours pas. Son amant se tait. Il fixe le moniteur vidéo de la colonne endoscopique et elle guette sa première réaction. Du soulagement. Il ne devrait pas, mais il est heureux. Le mal qui le ronge a pris forme. L'ennemi, révélé au grand jour, est nu devant lui. Une masse opaque, désordonnée, de la taille d'une balle de ping-pong, au carmin tacheté d'un blanc morbide, dont les contours bleu marine tirent vers le noir. Couverte d'une mousse répugnante, elle jure, dans la nef marbrée de l'abdomen, constellée de ses pastels roses et jaunes, et transperce la perfection diaphane du colon, soulevée à l'écran par une pince fenêtrée. Voilà, ça c'est une des scènes d'ouverture qui se passe dans le bunker de Berlin, DOA, où justement le loup pratique ce qu'il sait faire mieux que personne, c'est-à-dire la chirurgie pour permettre à un adepte, un paraphile, enfin voilà, on ne sait plus, d'ailleurs on n'en est plus à ces étiquettes et à toutes ces catégorisations, à un homme de toucher ce qui est en train de le tuer, c'est-à-dire une tumeur.
Oui, je me suis inspiré pour cette scène d'ouverture d'un film documentaire qui s'appelle Sick, sur Bob Flanagan, qui était un artiste californien, qui a été malade toute sa vie et qui a pratiqué le BDSM pour lutter contre sa maladie, en fait. Et j'ai fait de mon Marcus un espèce de Bob Flanagan allemand, qui lui est atteint d'un cancer du côlon et qui en a évidemment peur. Et donc, pour conjurer cette peur, à un moment donné, a besoin, avant qu'on lui retire cette tumeur, de voir de quoi il est question. Et donc, il va demander à un chirurgien qui est underground de faire sur lui une opération que ces autres chirurgiens qui vont lui retirer la tumeur ne veulent pas faire, c'est-à-dire lui montrer son adversaire en face, pour conjurer sa peur et sa douleur. Et en plus, comme il est artiste, il veut en faire quelque chose, un geste artistique, il veut filmer toute l'opération. Enfin, il y a tout un délire sur l'image. Voilà. Et pour préparer ce texte, j'ai assisté à plusieurs opérations endoscopiques en ayant la possibilité de poser la question à des médecins, des anesthésistes, des choses comme ça, pour être bien sûr que sans tomber dans une espèce de compte-rendu post-opératoire, je n'allais pas rencontrer trop de bêtises sur ce qui était possible de faire, pas possible de faire. Voilà. Donc, je dois avouer que ça a été un moment assez intéressant. qui a beaucoup surpris ces deux médecins, parce qu'ils m'ont demandé à plusieurs reprises savoir si je voulais un tabouret à côté de moi, pour savoir si j'allais tourner de l'œil pendant le truc. Mais en fait, non, et ils ont été très surpris que je m'intéresse très près.
Alors, bon, c'était assez marrant. Aussi à nos auditeurs que cette opération, que l'on vient de lire le récit, est pratiquée par un homme revêtu d'un masque de loup en public.
À ce moment-là, non. À ce moment-là, il a juste son masque de chirurgien. Il est toujours caché. Le masque de loup, il l'a quand il arrive, mais il l'a retiré. Et à ce moment-là, il est juste dissimulé par son chasuble et son masque de chirurgien.
Élise Lépine.
Moi, ce que je trouve très intéressant dans le livre, c'est qu'il y a aussi toute une réflexion sur le dominant et le dominé. Mm-hmm. Et on se rend compte que, par exemple, cette relation entre la fille et le loup, on comprend que le loup absorbe complètement la fille, qu'elle se dissout un peu en lui. En même temps, elle le domine aussi, ils inversent parfois les rôles. Mm-hmm. Et la question qu'on se pose, c'est finalement que dans ces rapports dominant-dominé, le dominant n'est pas forcément celui qu'on croit. C'est-à-dire que sans dominer, il n'y a pas de dominant, et que le dominé a une puissance supérieure à celle de celui qui le domine.
Alors, je ne sais pas s'il y a une puissance supérieure. Le livre joue sur plusieurs registres. Il joue d'abord sur le registre des masques, parce que c'est important de parler de cette histoire de masque de loup. Toute la symbolique du loup est très présente dans le BDSM, donc c'est aussi pour ça que j'ai utilisé cette image-là. Mais il y a dans le rapport de ce chirurgien à sa propre image, c'est-à-dire c'est un chirurgien esthétique qui n'opère plus parce qu'il ne peut plus se présenter à ses clients. Il est défiguré. Comment vendre sa qualité et son talent quand on est soi-même défiguré? Donc il y a toute une réflexion sur les masques, sur ce qu'ils nous permettent d'être ou de ne pas être au monde. Donc c'est ça, la racine latine du masque, c'est persona, donc la personne, c'est pas un hasard. Quant au rapport dominant-dominé, il est évident qu'on pourrait penser de l'extérieur que celui qui domine a le pouvoir sur celui qui est dominé. Ça, c'est la dynamique à laquelle on pense la plus immédiate. Mais ce qu'on oublie, c'est que le dominé confère un temps le pouvoir à l'autre et peut le reprendre à n'importe quel moment. Donc au fond, la dynamique, elle s'inverse dans ce cas-là. Sauf dans le cas où, effectivement, la problématique du consentement devient un problème. Le consentement au milieu de ça devient un problème. Il est aboli ou il n'est pas aboli. Donc les franges et les dynamiques, elles s'inversent et elles fluctuent, d'autant que mes deux personnages, enfin en tout cas la fille, est ce qu'on appelle une switch, c'est-à-dire qu'elle passe dans sa vie BDSM allègrement du rôle de dominante à celui de soumise. Donc il y a toute une dynamique là-dessus, et il y a aussi une dynamique sur comment à un moment donné quelqu'un peut nous faire sortir de notre axe et de notre chemin. C'est ce qui se passe dans les trois parties du livre, à savoir la première partie, on est très extérieur à eux et au monde qu'ils fréquentent, et c'est un peu froid, c'est un peu descriptif, c'est très
ambitieux.
Et puis le moment où ils se rencontrent, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus proche d'eux, et c'est là qu'on touche à cette passion triste en fait, hein, qui va les animer jusqu'à la conclusion du livre. Donc et à ce moment-là, leur rencontre véritable crée des dynamiques de pouvoir où a priori au départ on est sur le cliché, et puis après derrière on inverse les rôles. Et la fille ordonne au loup d'être le dominant qu'elle a besoin qu'il soit. Effectivement.
Pierre Dionnet.
Oui, moi je trouve que jusqu'à présent, enfin, Citoyen clandestin, Pouctou et ça, on reste au cœur des ténèbres. Et je dirais que j'ai l'impression, pour prendre un écrivain qui n'a rien à voir, qui a tout à voir, j'ai un peu l'impression de Huysmans qui fait là-bas. Et que je lis à 14 ans et je suis extrêmement choqué par Gilles de Rais, les arbres qui sont autant de vulves qu'on peut violer. Mais je sais la suite. Je sais que avant c'est la drogue de la rebours et après c'est la cathédrale et c'est la conversion de Huysmans. Donc
c'est une manière masquée de demander à DOA s'il est en route vers la conversion.
Oui, je me demandais si DOA, une fois qu'il aura été un peu comme on dit chez les soufis, tout à fait au fond, au cœur des ténèbres, quand il va toucher le fond de l'enfer, s'il ne va pas remonter dans un paradis très haut à la Charles Trenet.
Il est clair que je vis dans une société, et que je suis de ce point de vue-là sans doute très représentatif de cette société, qui n'a pas de transcendance et qui est confrontée à des gouffres qui ne font que s'ouvrir devant nous au fur et à mesure. Les sujets sur lesquels j'écris, au fond, sont des façons, et je reconnais tout à fait être très cliché de ce point de vue-là, sont des façons de conjurer les choses qui m'effraient. Peut-être qu'un jour, j'aurai besoin d'une transcendance quelconque pour me rassurer. Et la religion en est une parmi d'autres. Moi, j'ai été élevé dans une tradition chrétienne. J'ai été baptisé, etc. Je suis absolument incroyant. Je ne souscris pas à ça, mais j'accepte quelque part que c'est un héritage et que c'est une transmission d'un certain nombre de valeurs et de référents historiques qui est importante. Ça fait partie de ma personnalité et de ma construction. C'est là.
Non, mais moi, j'ai découvert le SM réel. C'est-à-dire que j'étais resté un peu à Gwendoline et compagnie. Et j'étais fasciné surtout par une chose, c'est cette histoire, je spoil un peu, l'histoire de mot de passe, de la phrase qu'on peut dire pour que ça s'arrête. Et j'ai remarqué...
Safe word, ouais.
Voilà. Et le mot de passe, les gens l'utilisent très peu.
Bah justement, parce que c'est une manière de...
Ça dépend dans quelles circonstances. Mais c'est vrai que dans le livre, ils l'utilisent peu, mais pour d'autres raisons, en fait.
Le couloir est étroit, à peine suffisant pour se croiser à deux et pas très haut. Bras tendus, la fille peut suivre sans difficulté la courbe de sa voûte. Un boyau maçonné de pierre noire, au sol de terre battue, illuminé par des ampoules à l'éclat, ce soir voilé à dessein. De quoi exalter la sensation de claustrophobie qui s'est emparée d'elle tout à l'heure, quand elle y est entrée. L'impression désespérante que sa vie n'a plus ni sens, ni horizon. La coursive fait partie d'un labyrinthe de corridors et de casemates dont la vocation militaire n'est qu'un lointain souvenir. Normalement, une toute petite fraction de ce dédale est ouverte au public et encore seulement en journée. Le reste est fermé, hors limite, interdit, en théorie. Dans la pratique, si l'on sait qui graisser ou mieux quel homme de pouvoir aux désirs inavouables inviter, flatter, régaler d'une nuit de magie et d'oubli, les souterrains du château de Wieserade, le Haut Château à Prague, peuvent se transformer en idéal décor à fantasmes oppressifs. Élise Lépine, idéal décor à fantasmes oppressifs.
Oui, moi j'ai trouvé. Déjà, je trouve que l'écriture est remarquable là, dans ce que vous venez de lire et la description de l'opération. Simplement, ce qui m'a aussi interpellée, moi je crois que j'avais une vision un peu angélique du BDSM, bizarrement. C'est-à-dire que je pensais vraiment que c'était un monde dans lequel les gens étaient tout à fait d'accord et tout à fait respectueux de l'accord ou du désaccord des autres. Vous montrez quand même que c'est aussi un business et qu'il y a aussi des raisons pour lesquelles les victimes ou les soumis ne prononcent pas le safe word, qui n'est pas parce qu'elles n'ont pas envie, mais simplement parce qu'on les pousse un peu.
Oui, alors que... Entendons-nous bien, le monde du BDSM tel qu'il est pratiqué par l'essentiel de la population qui se livre à ces choses, à ces jeux, est tout à fait légal, pas criminel, pas malsain. Enfin, malsain, après, c'est toujours pareil, c'est que chacun projette là-dessus ce qu'il veut. Mais enfin, en tout cas, se fait entre adultes consentants, parfaitement conscients de ce qui est en train de se passer. Bon, ça, c'est la réalité de la majorité, de la très très grande majorité. Après... Évidemment, comme on est pour certaines choses dans des franges et des marges, il y a toujours des comportements qui sont déviants. En l'occurrence, la référence à laquelle vous faites, c'est à un site très particulier que j'ai baptisé ceiling.sx dans mon livre, en référence au château
de
Marquis de Sade. Mais qui est inspiré d'un véritable site, mais donc qui n'est pas le seul, il y en a plusieurs, qui dans la réalité s'appelle Insex. Insex.com est un site qui propose des scénarisations de torture à vocation BDSM avec des femmes objets, avec des appareils, avec des choses comme ça. Bon, donc ils ont besoin de mannequins et ils ont des filles qui, de façon très consentante, viennent signer et se font de l'argent de poche et du bon argent de poche à être les victimes. Elles le sont à la fois pour des questions économiques, mais elles le sont aussi pour la majorité d'entre elles, parce que sexuellement, ça les intéresse d'être dans cette position-là et de vivre ces choses-là. Le problème de ça, c'est que à la longue, il y a cette institution du safe word qui était là, et dans ce que j'ai pu découvrir sur ces sites, les créateurs de ces sites usent et abusent de l'intérêt économique que peuvent avoir le fait d'être une des vedettes de ces sites-là. C'est ces fameux sites qui numérotent les mannequins parce que ça leur permet d'éviter qu'elles se fassent un nom et donc qu'elles fassent du beurre ailleurs sur d'autres sites. Et il y a une pression économique qui s'exerce. Et donc, Le fait d'utiliser le safe word, c'est-à-dire d'empêcher le mec d'aller toujours plus loin et donc de racoler toujours plus de clients, utiliser le safe word vous vaut... fait que la torture va s'arrêter, très bien, mais ce qui va s'arrêter aussi derrière, c'est d'être invité sur le site pour revenir faire d'autres films. Donc, il y a un vrai argument économique derrière, et là, à ce moment-là, on peut commencer à parler d'abolition du consentement. Parce que on joue, soit tu consens, soit tu travailles plus. Et donc ça, c'est une des franges, une des limites de la chose. L'autre limite d'abolition du consentement, qui est discutée avec difficulté, c'est que il y a quand même aussi, dans ces soirées, dans ces milieux, de la drogue qui circule. Et la drogue, c'est quand même, quoi qu'on en pense, qu'on juge ça bien ou pas bien, c'est même pas la question, c'est quelque chose qui vous met dans un état où le consentement est discutable. Et donc là aussi, la question du consentement se pose. La troisième chose où la question du consentement se pose, et c'est pas vain, mais tout ce que je dis là se pose aussi dans le monde vanille, donc c'est pas spécifique au monde BDSM, c'est plus aigu là parce que c'est central, mais c'est aussi dans le monde vanille. La troisième chose dans laquelle la question du consentement se pose, c'est la pression sociale, la pression du groupe. On est dans un groupe qui pratique certaines choses, jusqu'où on accepte d'aller ou pas aller, sachant que les autres y vont. Et là aussi, on est dans des problématiques de consentement, mais une fois de plus, on est dans des problématiques qui sont les mêmes dans le monde vanille, dans le rapport, dans les individus, dans leur intimité, etc. Il n'y a pas de différence. Mais c'est vrai que dans le BDSM, c'est plus immédiatement visible.
L'Ikaya de DOA, paru chez Gallimard, notre invité de ce soir, à mauvais genre, la mélopée tragique des modernes dionysiques. On termine ce mauvais genre avec deux recommandations de lecture. On ne quitte pas la chair fraîche, ma chère Élise.
Voilà, on reste dans le cannibalisme. Dîner secret de Raphaël Montès. Alors, c'est un roman qui se passe au Brésil. C'est quatre étudiants qui sont un peu fauchés, qui ont du mal à payer leur loyer, qui décident, puisque l'un d'entre eux est cuistot, de proposer des dîners sélects et de les faire payer. Et l'un d'entre eux, celui qui rédige l'annonce, au moment de la poster, il est un peu facétieux. Il décide de proposer de la viande humaine au menu. Donc, évidemment, les modérateurs du site dégage l'annonce assez vite, mais il y a quand même 10 personnes qui se sont inscrites au dîner et les garçons décident de le maintenir. Alors, ils trouvent un cadavre à la morgue, il y a toute une aventure. Ils le servent, ils le cuisinent, ils le servent, ça marche très bien. Ils décident évidemment, avec l'argent qu'ils ont gagné, d'arrêter, mais l'un des participants leur propose d'être un peu leur mentor et de leur fournir de la viande humaine décédée de mort naturelle, etc. Alors, ils cèdent, appâtés par le gain. Bien évidemment, on va se rendre compte assez vite que les morts naturelles ne sont pas si naturelles que ça. Alors, c'est un roman qui nous entraîne dans des chasses à l'homme, dans la forêt, dans des abattoirs humains où les gens sont tués à petit feu, torturés pour que la viande soit plus tendre. Et puis, ces quatre garçons sont confrontés à la question morale, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on va et à quel moment est-ce qu'on décide de s'arrêter ou de continuer. Alors, c'est un livre qui est gore, qui est trash, mais que j'ai trouvé vraiment très intéressant parce qu'il nous questionne sur l'hyperconsommation, sur le capitalisme sauvage, sur le fait qu'on fait tous partie quand même d'un système dans lequel on veut bouffer et on veut bouffer l'autre et on en redemande sans réfléchir vraiment à ce qu'on fait. Donc la question, c'est est-ce que le psychopathe, c'est celui qui est dans une ruelle avec un couteau entre les dents pour bouffer l'autre, ou est-ce que c'est celui qui participe au grand système dans lequel on ne regarde absolument pas ce qu'on consomme et on s'en fiche complètement. Voilà, donc c'est un roman, je pense que s'il était publié en France, il vendrait 3 exemplaires, mais il fait un carton au Brésil et je trouve ça très bien. Raphaël Montès, Dîner secret, c'est aux éditions du Masque.
Monsieur Jean-Pierre, alors, toujours la fin de loup, monsieur Jean-Pierre. Oui, toujours le loup.
Oui, mais d'abord, je voudrais dire que comme la série Hannibal, je dois être dégénéré parce que le roman de Raphaël Montès m'a donné faim.
Ah, aussi.
Attention.
Non, c'est terrible, c'est ça.
Elle aussi.
Alors, une mission en armure.
Puisqu'on est dans les dégénérés, puisqu'on est dans le capitalisme, j'ai failli ne pas lire à cause de la couverture très Twilight. Le livre « La fin du loup » de Stephen Marsh, qui travaille au Wall Street Journal.
Édition Actes Sud.
Et chez Actes Sud, il travaille au Wall Street Journal, il travaille pour New York Times. Donc, il me parle dans ce roman « La fin du loup » des capitalistes des 0,0001%. c'est-à-dire les plus riches des plus riches. Et il m'explique très bien la bourse, où j'avais pas tout compris, puisqu'il vient du Wall Street Journal, mais surtout on découvre les cages dans la cave de cette famille qui possède les 0,0001%. Et pourquoi il y a des cages? Eh bien, je vous dirais que là, je comprends la référence à Twilight. Il nous dit en gros que le secret des plus grands capitalistes est un secret terrible et honteux, qu'ils ne sont pas tout à fait humains. Alors après, ça bascule un peu, je dirais, dans, on va dire, du Terence Fisher sur la fin. On va, j'imagine, Oliver Reed, en loup-garou. Oui, en loup-garou, ça y est, j'ai vendu la mèche. Les plus grands capitalistes du monde sont en réalité des loups-garous qui, à la pleine lune, vont tuer des jeunes femmes vierges si possible. Le livre est drôle, il a un côté fitzgéraldien dans la manière de dire « les riches sont différents », mais c'est du Bretton Woods en réalité, un peu prolongé.
Merci Jean-Pierre. Donc s'il s'agissait de La fin du loup de Stephen Marsh, c'est chez Actes Sud. On termine cette émission avec bien évidemment le maître Beer.
Aux images faussement subversives formatées pour les réseaux de l'art contemporain, à l'underground galvaudé en slogans publicitaires, il faut s'accrocher à l'énergie punk du dernier cri, structure associative fondée en 1993 par Caroline Suri et Paquito Bolino, qui affiche désormais 25 ans d'édition vraiment indépendante, sans compromis, frénétique, avec près de 400 gravezines. Fredox, Valium, Ichiba, Bernhardt, Stumid, Van der Linden, Scheibner, Soulatch, c'est un catalogue infernal d'artistes bruyants qui procèdent au renversement des valeurs, piétinant les définitions rassurantes de l'art brut et du graphisme contemporain. Expression déviante, hors des cadres, état Uma, résistance à tous les embrigadements et à la mort. Paquito Bolino propage une vitalité grouillante sans se soucier des mots. « Underground », dit-il à Xavier Gilles Néret, renvoie à quelque chose qui est fait sous la terre, dans la marge, dans le caca. Donc, le caca, c'est l'underground. On ne dira plus « underground », mais « under caca » ou « caca ground ». Seul à la barre du Destroyer Dernier Cri depuis 2009, Paquito Bolino n'est pas juste un éditeur génial, mais aussi un artiste. Tout frais sorti de son atelier de sérigraphie installé à la Friche de Mai de Marseille, les 36 pages en 10 couleurs de Sadobaka XXL révèlent sa fureur créatrice en un ample format 42 sur 31 cm. Jamais le luxueux papier Fedrigoni 260 grammes n'aura accouché d'aussi vile turpitude graphique. Sado et Baka, emprunté au vocabulaire manga, c'est sadique et stupide. Programme choc pour des compositions hystérisées de détails, s'inspirant de la trivialité des BD porno pour adultes, de la dérision macabre des tabloïds de faits divers et des spasmes tortueux du cinéma d'exploitation de la 42e rue, compressés dans des parodies sales de couvertures de comics, aux titres rédhibitoires comme des boniments de démence. Strange Tales of Tortured Suspense, From Beyond the Perverse, Warning Sex. Le trait de l'artiste, fiévreux d'une rage enfantine, crache un monde de chaos. Nonne satanique, avorton à tête de mort, fille bondage et pin-up en prothèse, cuisses indécentes et sexes écumants, des serpents tentacules, la chair disséquée à vif qui s'ouvre sur un œil exorbité. D'infâmes monstres de série Z, ailes de vampires, pattes d'araignée nous contaminent, décidés à sortir des pages. Des centaines de traits saturent les dessins. Sadobaka XXL est un pandémonium charnel. La sérigraphie se caresse des yeux et des doigts. Son parfum d'encre se renifle, apaisante dans ce tumulte en nervorama. Tirage limité à 100 exemplaires, au prix émouvant de 69 euros. Under Kaka, Kaka Grande, Sadobaka XXL.
Merci Christophe Beer, merci Dewa d'avoir été.
Merci de m'avoir reçu.
Ce soir, l'invité de Mauvais Genre, prochain livre.
Ah, prochain livre dans quelques années, il faudra l'attendre.
Eh bien, nous patienterons, vaille que vaille, et rendez-vous pour votre prochain livre. En tout cas, lisez, relisez, faites lire et faites relire Dewa, L'Ikaya, un roman paru aux éditions Gallimard, et nous remercions chaleureusement Antoine Gallimard d'avoir été à la hauteur de son grand-père et de son père, qui publièrent jadis Le Marquis de Sade, L'Anglais dans le château fermé d'André-Pierre de Mandiargues ou Le château de Sèvres. scène de Bernard Noël. Lui, il a accepté de publier L'Icaïa et c'est très bien pour tous. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleré, Alain Joubert, Sam Boutata, Céline Duchesnay, Claire Martin-Dugard, Élise Lépine, Jean-Pierre Dionnet, Christophe Bir et François Angelier vous remercient d'avoir suivi cette émission. On se retrouvera la semaine prochaine en compagnie, et oui, de Jean-Baptiste Torré qui fait retour à Mauvais Genre. Pourquoi ? Parce qu'il vient de créer aux éditions Canal+ une collection de DVD dont on parle beaucoup, Make My Day. Les premiers titres en sont Philippe Labro, Mario Bava et puis bien évidemment Catherine Bigelot. On en saura un peu plus la semaine prochaine avec lui, d'autant qu'il est au cœur d'un événement qui est la visite française et une nombreuse parution de DVD et de livres de Peter Bogdanovitch. Donc rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, eh bien évidemment, lisez L'Icaïa de Léoa. C'est aux éditions Gallimard. Bonne nuit à tous et que la nuit vous soit blanche. Thank you.